That's a terrible call. That is a terrible call.
Bonjour à tous, bonjour à la Celtics Nation et bienvenue pour le troisième épisode de The Green Room, donc votre nouveau podcast estampillé Celtics France sur les prospects NCAA et la draft NBA. Alors comme d'habitude, je vous recommande d'aller faire un tour sur les épisodes précédents pour découvrir des prospects plus ou moins sombres qui pourraient intéresser les Celtics pour la prochaine draft. Aujourd'hui, place à de nouveaux prospects et pour m'accompagner sur cet épisode, un représentant de QI Basket et fan des Knicks. Alors c'est vraiment pas volontaire de ma part, mais pour la troisième fois en trois épisodes, le non-fan des Celtics est un fan des Knicks. Donc en la personne de François Damien et un représentant de Midnight on Campus. Donc c'est un honneur d'avoir les pionniers de la NCAA en France et fervent supporter de Boston en plus avec Hugo. Bonjour à vous, comment ça va?
Bonjour et merci à toi pour l'invitation.
Alors, et merci de l'invitation.
Alors comme à chaque fois, je propose que vous vous présentiez rapidement, si ça vous dit. Donc je ne sais pas qui veut commencer.
Bon, je peux y aller. Du coup, François Damien, effectivement, sur QI Basket, depuis, ça fait un an maintenant. Voilà, j'écris sur la NBA, sur la NX notamment, un petit peu d'Euroleague. Avec l'Eurocrew sur QI Basket et un peu d'NCAA aussi, puisque j'étais l'année dernière à Syracuse et à Washington dans mon année universitaire à l'étranger. Voilà.
Ok, ça marche.
Okay, donc, moi, c'est Hugo. Comme tu l'as dit, j'écris sur Midnight on Campus depuis 3 ans maintenant. Donc, tu les as présentés comme des pionniers, donc je ne sais pas si on est pionniers, mais en tout cas, ça me fait plaisir et ça me fait aussi très plaisir d'être parmi nous ce soir pour parler un peu des Celtics.
Ça marche. Alors, du coup, ne perdons pas de temps. Commençons par le premier prospect. Comme d'habitude, honneur aux étrangers de la Celtics Nation. Donc, François Damien, qui tu nous as réservé pour la draft 2021 des Celtics?
Alors, je suis arrivé avec deux prospects aujourd'hui, deux gauchers. Alors, c'est un hasard, mais on va commencer par celui qui est le plus près de Strasbourg, là où je suis. On part en Lituanie avec Rokas Jokubaitis. Alors, c'est un arrière lituanien qui a 20 ans. Il est né en novembre 2000. Donc, c'est l'âge actuellement des sophomores hein, qui sont aux États-Unis. Et voilà, arrière lituanien de 20 ans qui joue aux Žalgiris Kaunas en Euroleague et en Ligue Nationale Lituanienne, la LKL. C'est un meneur arrière, il peut jouer 1 et 2, il est listé à 1m95, 83 kg, donc assez grand, une bonne envergure, j'ai pas trouvé le chiffre exact, mais il est assez long. Et donc comme j'ai dit, il joue aux Žalgiris qui est l'équipe préférée des fans d'Euroleague, un peu hipster. C'est une très très belle équipe à avoir joué sous Martin Schiller qui est un peu le Brad Stevens européen. Il a remplacé Saronas Yasikevicius qui est parti à Barcelone et il le fait très bien. C'est un jeu qui est très agréable à voir sous notamment la houlette d'une ligne arrière de Thomas Volkup et Marius Grigonis qui est très intéressante. On a aussi Geoffrey Lauvergne, le taulier au poste de pivot. Et donc notre ami Rokas Jokubaitis, il sort du banc derrière Volkup et Grigonis. Et il a un petit peu un rôle très offensif en sortie de banc de créateur. C'est pas principalement un scoreur, vous le verrez dans ses stats, hein, il est à 7 points de moyenne en Euroleague en 20 minutes. Donc c'est pas mauvais, 7 points de moyenne en 20 minutes en Euroleague surtout. Mais c'est pas son plus gros point fort. Son gros point fort, c'est le playmaking, sa qualité de passe, sa vision du jeu, sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est un vrai facilitateur. C'est quelqu'un qui crée les décalages et qui ensuite les exploite. Donc vraiment dans une catégorie vraiment intéressante au playmaking. Cette qualité, il l'exploite notamment sur pick and roll, où il est, pick and roll, pick and pop, des écrans porteurs, où il est déjà excellent, en tout cas en Euroleague. Il a déjà tout l'attirail de passe, que ce soit dans le dribble, main gauche, main droite, et de lecture sur les couvertures de pick and roll qu'on voit en Euroleague. Donc ça, c'est son gros point fort, et forcément le pick and roll, puisque c'est l'alpha et l'oméga en NBA, c'est une compétence qui se traduit directement au niveau supérieur et qui peut être très intéressante. Alors, tout n'est pas rose, hein, forcément. Il a des limitations physiques. Un peu le cliché pour les Européens, mais là, c'est vrai. Des limitations physiques, notamment en explosivité. Ça se ressent en attaque, hein, où il peut parfois manquer d'agressivité vers le cercle. Il est à moins de 2 lancers francs par match cette saison, ce qui est vraiment pas incroyable. Maintenant, on a vu beaucoup de joueurs faire une carrière en NBA sans un premier pas dévastateur. Et il compense ses manques athlétiques, notamment par un très très bon handle. Il a des très très bonnes hésitations, des très bons crossovers qui lui permettent de pallier ses limitations physiques. Là où c'est plus compliqué de les pallier, c'est en défense. Il est très impliqué en défense. On l'a vu face à l'ASVEL, c'était plutôt cette semaine, où il a musé David Lighty, mais parce que David Lighty n'est pas forcément un joueur très explosif. Et c'est là qu'il peut y avoir un problème en NBA, c'est que malgré son implication en défense, il peut manquer d'explosivité ou de densité sur des arrières très rapides qu'on voit en NBA. Ça va peut-être l'empêcher d'être plus qu'un défenseur correct dans la grande ligue. Il s'ouvre notamment beaucoup sur les écrans, où voilà, il a du mal en termes de densité physique à résister à des gros écrans, même en Euroleague. Donc ça peut être un point qui peut l'empêcher d'être un très bon joueur, même d'un bon joueur en NBA. Donc voilà, un profil plutôt role player en sortie de banc, en tout cas, pas forcément NBA ready, mais avec un gros potentiel qui peut vraiment être intéressant offensivement.
Ok, ouais, pour ma part, c'est un joueur qui me plaît bien. J'étais déjà fan de lui la saison dernière avant qu'il retourne pour une saison en Europe. Le petit red flag, on va dire, que je m'étais noté, donc il y a le physique, comme tu dis, mais il y a aussi son shoot extérieur. Quand on sait dans la NBA actuelle l'importance du shoot extérieur, encore plus pour des meneurs arrière, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que t'as pas peur que ça lui coûte des places à la draft et que ça limite son rôle et son potentiel en NBA?
Ah si, absolument, je suis très content que tu en aies parlé, je m'en doutais que ça allait arriver dans nos discussions. Cette année en Euroleague, il est à 34% à 3 points, alors on peut se dire que c'est pas mal, hein, mais c'est sur un très très petit volume. Il est à une tentative et demie par match dans une équipe de Kaunas qui est vraiment tournée vers l'attaque, c'est pas assez, une tentative et demie par match. Sa mécanique est assez fluide, assez équilibrée, hein, mais voilà, il va presque systématiquement chercher l'extra passe, poser un dribble pour forcer un nouveau décalage. Il prend très très peu de catch and shoot, et ça effectivement, comme tu l'as dit, en NBA il faut être capable de jouer en spot-up, surtout quand on est jeune et qu'on arrive dans la ligue. Effectivement, son tir qui est vraiment irrégulier, ça va lui poser des problèmes en Euroleague maintenant, en NBA pardon. Maintenant, c'est un gros travailleur, il a une bonne base au niveau de la mécanique, il est à 80% au lancer franc en carrière. Avec très peu de tentatives, mais enfin 1,38 tentatives par match cette saison, mais 80%, il a une bonne mécanique, c'est un gros bosseur, je pense qu'il peut améliorer son tir. Ça deviendra jamais un sniper, ça c'est sûr. En spot-up, il va manquer de réussite pour être un joueur en spot-up en NBA. Maintenant, je pense qu'il peut tourner autour de la moyenne de la ligue à 36-35% et pas forcément être une tare pour son équipe sur le spacing. C'est sûr qu'il ne faut pas l'imaginer en spot-up dès ses premières années dans la ligue. Mais effectivement, ça va heurter son stock à la draft, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va l'empêcher d'être un bon joueur à NBA? Ça, je suis moins sûr.
Hugo, un avis sur Rokas?
Ouais, c'est comme tu as dit, c'est un joueur que j'aime bien. Très beau joueur à avoir joué. Et ben, comme tu as dit, je fais partie donc, des hipsters qui adorent les Abdelis.
forcément
être un hipster. Et ouais, sinon j'ai comme toi Titouan, j'ai quelques limites, d'abord sur son shoot extérieur comme tu l'as judicieusement souligné, et aussi sur son physique, parce que pour moi en fait ces joueurs là ces joueurs qui ont qui ne dominent pas forcément par leur physique vont devoir compenser en étant élite vraiment sur quelques points forts. Par exemple, on peut le voir cette année à Boston avec Peyton Pritchard, qui est lui aussi limité physiquement, mais qui compense par son adresse extérieure déjà, et par aussi, et qui est plus surprenant par sa lecture, qui est vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer à la fac. Et donc c'est sur ce point que je suis un peu plus dubitatif sur Rokas, sur le fait. De savoir s'il pourra dominer sur un aspect du jeu. Je pense qu'il peut le faire dans le playmaking. Si je vois par exemple un mec comme Tomas Satoransky, qui ressemble un peu dans le profil, c'est-à-dire d'arrière assez grand, capable de dicter le jeu, il a un vrai bon rôle en NBA. Je pense que Jakubaitis peut le faire aussi. Et par rapport à Boston, je suis pas trop fan du fait de drafter un meneur comme ça, parce qu'on a déjà Yam Madar, qu'on a drafté l'année dernière, qui pour le coup, lui, je pense, a un vrai profil NBA avec enfin, justement les qualités athlétiques qui sont très, très. Qui est très, c'est un meneur qui est très athlétique, très juteux. Donc c'est aussi mon petit, enfin la petite chose qui me fait douter du pic de Ekobaitis, même si encore une fois c'est un super joueur de basket.
Ok, très bien. Bah, on va passer à ton. Ouais, où tu avais quelque chose à rajouter
Non, j'allais dire bien joué pour le Yam Madar. C'est vrai que je l'avais un petit peu, j'avais oublié qu'il était au Celtics. Mais c'est vrai qu'ils ont, le même âge, ils sont à peu près sur la même timeline. Hein. À mon avis, ils n'arriveront pas en NBA avant 1 ou 2 ans. Donc c'est vrai que le fit immédiatement n'est pas forcément judicieux.
Mais après, lui, je pense que pour le coup, il peut plus jouer, enfin, il jouera plus deux, enfin, avec un autre porteur de balle plus petit, plus shooter, par exemple, si on met. Bon, c'est parce que ça. On va imaginer dans quelques années, hein, évidemment. Si on le met à côté d'un Peyton Pritchard qui, lui, bah, qui joue beaucoup loin du ballon, dans un rôle de shooter, je pense que si on donne le ballon à Jokubaitis, ça peut fonctionner, Johnson. Après, bon, c'est vraiment hypothétique et dans beaucoup d'années, parce que les deux ne sont pas
ouais.
à jouer ensemble dès aujourd'hui sur le terrain, c'est sûr que.
Ouais, c'est clair. Peut-être en G-League. Peut-être en G-League. Ah, et du coup, on passe au deuxième titre.
Ouais, ok. On va passer à ton prospect, Hugo.
Ok, donc je vais vous présenter. Bon, déjà, je vais expliquer un peu mon raisonnement parce que quand je vais dire le nom, beaucoup vont se dire mais non, mais il va être drafté beaucoup plus haut. Alors, comment vous dire? Donc, en fait, pour moi, et on en a un peu rigolé avant l'enregistrement, en fait, il y a de grandes chances que ce pick soit tradé. Avant la draft ou pendant la draft. Et donc, je me dis qu'il y a de grandes chances aussi qu'on ne sélectionne pas au premier tour. Mais si on sélectionne, pour moi, ça sera un joueur qui aura chuté, qui aura un gros potentiel et qu'on pourra utiliser. Et donc, j'ai misé sur un certain Isaiah Jackson, donc d'une université que je déteste, hein, donc Kentucky, qui est pour le coup, lui, un monstre athlétique. C'est-à-dire que c'est un Robert Williams, c'est encore plus juteux, je pense. Le mec, bon, ça se tape, hein, mais le mec est juste incroyable au niveau athlétique. C'est-à-dire que c'est le joueur que tu rêves d'être dans tes rêves les plus fous. Tu rêves de te dunker comme lui. Alors, c'est un immense contreur qui, même si cette année, on ne l'a pas vu parce qu'il joue avec un meneur qui est horriblement. Bon, qui est un des pires meneurs, je pense, du Power 5, qui est Devin Askew.
T'aurais pu t'arrêter à horrible.
Ouais.
Un meneur horrible. Ça allait aussi.
Horrible. C'est vrai qu'il est complètement nul. Donc, on n'a pas vu du coup Isaiah Jackson sur Pick and Roll, mais je pense qu'il a le potentiel pour être. Une vraie menace sur cet aspect du jeu qui est en plus en NBA c'est l'arme atomique, hein. Être un bon finisseur sur pick and roll, on voit avec des par exemple un mec comme Montrezl Harrell qui n'a pas forcément les meilleures mains de NBA qui est un monstre offensif grâce à ça. Donc je pense que Isaiah Jackson peut faire la même chose. On voit aussi qu'il y a de vrais progrès dans son jeu, notamment offensif. On le voit de plus en plus utiliser son handle et bien l'utiliser. Et justement, je trouve qu'il prend de plus en plus confiance et que ça va aller en s'améliorant. Par exemple, il y a un match, un de ses derniers matchs contre Ole Miss, où en fait, bon, pour le coup, il jouait contre une défense 1-3-1. Donc, il s'est souvent retrouvé en situation de 1 contre 1 face au big adverse et il l'a tout simplement détruit. Il a joué tous ses 1 contre 1 et il l'a tué. Par contre, bon, le gros aspect négatif, c'est sa défense surtout sur pick and roll. Je trouve qu'il est encore très très naïf, donc ça reste un projet et c'est pour cette raison en fait sur la défense sur pick and roll que pour moi il pourrait un peu tomber dans la draft. Je me souviens notamment de Rob Williams puisque j'en parlais à la draft. Pour moi Rob Williams c'était un prospect beaucoup plus complet que Isaiah Jackson. Elle est tombée jusqu'au 27e choix, pardon. Il y a aussi, il y avait aussi des doutes sur son physique, hein, notamment à la hanche, Rob Williams. Mais je me dis qu'une chute pour Isaiah Jackson, c'est pas forcément impossible, même si dans beaucoup de mock drafts, dans beaucoup de big boards, il est un peu au-dessus, aux alentours des, bon, entre 15 et 20, généralement.
Ce qui m'embête avec ce joueur, c'est que justement, tu le comparais avec Robert Williams. Pour moi, ce que Robert Williams avait, c'est qu'il était, il avait un gros potentiel défensif et brut offensivement. Et Isaiah Jackson, c'est, si je schématise, c'est un peu l'inverse en gros. Et du coup, moi, ça m'embête dans le sens où pour moi, c'est plus simple d'apprendre à attaquer qu'apprendre à défendre. Enfin, apprendre à un joueur à attaquer que de lui apprendre à défendre. Et alors, il a les outils physiques pour. Mais ouais, moi, j'ai un peu peur pour les Celtics, ils soient trop bruts. Et que du coup, ça demande du temps de développement et du temps de développement et des minutes, donc, qu'il n'aura pas forcément à Boston où on va vouloir gagner dès la saison prochaine, en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, François Damien, du fit et du joueur.
Alors, le fit, ça, je vais vous le laisser à vous. Après, c'est vrai que moi, j'entends surtout que vous avez déjà beaucoup de personnes à l'intérieur. Donc, est-ce que drafter un poste 4-5 qui est finalement assez remplaçable comme profil dans la NBA actuelle, c'est vraiment un investissement judicieux? Je ne sais pas. Je suis très content, Hugo, que tu aies parlé du manque de pick and roll. C'est vrai qu'il y a le meneur qui est, enfin, Devin Askew, qui est assez horrible. Bon, Freshman, on va lui pardonner. Aussi, Calipari a une tendance à mal utiliser des prospects et qui arrivent en NBA et qui ensuite explosent. À New York, on est content, hein. On a Emmanuel Quickly, demandé à Charlotte PJ Washington, le 8 Tyler Hero. Donc il y a aussi cet aspect Kentucky, on ne sait pas vraiment comment il a été utilisé. Ça se trouve, Calipari nous a encore caché des très belles qualités. Mais après, je suis d'accord avec ce que tu as dit, il est assez naïf en défense, il fait beaucoup de contres, mais il a aussi un problème, c'est qu'il fait beaucoup de fautes. Il a des mains qui sont très actives, alors sur des contres, sur des interceptions, sur des contestations, c'est très fort. Mais il est naïf, il fait beaucoup trop de fautes. Ça peut être aussi un souci pour rester sur le terrain en NBA avec des attaquants plus expérimentés.
Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Hugo.
Juste sur le trop plein d'intérieur à Boston, faut pas oublier aussi que Daniel Tice est en fin de contrat et... Je ne serais pas étonné, franchement, qu'une équipe lui donne pas un gros contrat, mais un bon contrat pour ce qu'il apporte. C'est quand même un très bon roleplayer NBA. Et c'est pour ça que je me dis, bon, si vraiment une franchise lui donne un bon salaire, je ne sais pas, aux alentours peut-être des 10 millions, c'est ce qu'il vaut à mon avis, est-ce que Boston sera en mesure de le payer dans la mesure où il y aura la trade player exception à utiliser, plus le gros contrat de Jason Tatum qui va rentrer en vigueur. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une perte dans l'intérieur. C'est pour ça que drafter encore un autre intérieur, ça me paraît pas logique.
Après, il y a aussi le fait qu'on sait que les intérieurs demandent souvent plus de temps de développement et éclos plus tard que des guards ou des ailiers. Du coup, on a déjà Robert Williams qui est en pleine progression. On a Grant Williams aussi. Je sais pas, moi, j'ai peur que trois jeunes, du coup, sur les postes 4-5, ça fasse beaucoup à développer. Et je voulais juste rajouter un truc. J'ai vérifié là pendant que vous parliez, parce que je n'étais pas sûr. Il fait 80, j'ai noté 93 kilos pour un pivot de plus de quasiment 2m10. Ça fait un peu light. Il va falloir qu'il aille à la salle.
Je pense que
la cantine.
On est bien quand même très vite. Donc,
oui.
C'est pas forcément qu'avec la salle, mais c'est un autre.
Ça marche. Bah, je vais passer à mon premier prospect du jour, du coup. C'est un profil que recherche n'importe quel GM, je pense, en 2021 en NBA. Un ailier qu'on appelle un 3-and-D. Donc, je pars sur Oshae Agbaji, donc le swingman de Kansas. 1m96, 95 kg, 21 ans, donc junior, troisième année, donc assez expérimenté. Au niveau des qualités, j'avais noté sa défense déjà. Pour moi, il a une défense très polyvalente. Il peut défendre des postes 1 à 3. C'est un très bon défenseur sur l'homme. Il descend, quand on regarde bien, il descend bien son centre de gravité. Il est très réactif dans la rotation des hanches. J'aime beaucoup. Il appréhende bien les changements de direction. C'est aussi un bon défenseur d'équipe. Il a les mains actives. Il lit bien les rotations. Il se déplace plutôt bien à travers les écrans. Après, tout ça, on peut le noter aussi si pour les fans de stats avancées, on le note sur les steal percentage et les block percentage, où il a 1,9 et 1,6, ce qui est plutôt bon. Physiquement, il est déjà bien construit, il a des bonnes épaules. Franchement, quand on le regarde, Moi, j'aimerais pas me retrouver à me battre avec lui. Même si c'est pas le plus lourd, il a vraiment des épaules assez impressionnantes. J'ai pas réussi à mettre la main sur son envergure, mais ça a l'air d'être intéressant aussi. Donc, défense, pour moi, elle est NBA ready. Offensivement, il s'améliore au shoot. C'était pas ça au tout début de sa carrière. Mais là, il tire à 38% sur, j'avais noté, 6,8 tentatives par match. Donc, c'est quand même de très bonnes stats. Quand on regarde en catch and shoot, c'est sur les situations où il est le plus intéressant et le plus performant, il est à 40%. Par contre, sur les autres aspects de l'attaque, là, c'est plus mitigé. Donc, 45% de ses actions, c'est soit du catch and shoot, soit de la transition. Donc, en gros, faut pas compter sur lui pour gérer une attaque, pour apporter du playmaking. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demandera de faire, et il n'est pas fait pour ça. Son handle, il est assez limité. Enfin, voilà, c'est pas un grand créateur. Donc, par contre, c'est pas le joueur qui va poser des problèmes dans le fonctionnement de ton attaque. Il va bien faire circuler le ballon, il va pas le garder 3 heures dans les mains. Donc voilà, en attaque, c'est exclusivement un spot-up shooter, en gros. Au niveau du rôle, moi justement, je le vois plutôt dans un rôle de 3D en catch and shooter, voilà, qui attend dans le corner. Surtout qu'on a chez les Celtics, on a Javante Green et Semi Ojeleye qui sont agents libres à la fin de la saison. Donc voilà, pour moi, ça peut être le genre de gars qui peut remplacer un de ces deux-là et qui aspire à, on va dire, une dizaine de minutes en sortie de banc. Je sais pas ce que vous en pensez, un avis sur Agbaji, les gars.
Alors moi j'étais pas impressionné hein, par Agbaji. C'est vrai que défensivement il est solide, il est très très solide. On le voit pas, enfin on le voit très peu, et pour moi c'est un bon signe quand tu vois pas un défenseur, quand tu le remarques pas, quand tu regardes un match, c'est souvent un bon signe. Après moi mon souci, est-ce que son tir il va pouvoir être réel jusqu'en NBA? Là il est à 38%, tu l'as dit cette année. Sur énormément de catch and shoot, donc un peu à relativiser, hein, 38% sur catch and shoot, en NBA avec une plus loin, des défenses peut-être un petit peu plus agressives. Est-ce qu'il va pouvoir garder une telle réussite à 3 points pour justifier un rôle de spot-up shooter?
Alors, je précise juste, c'est 38% au total et que en catch and shoot, en situation de catch and shoot, il est à 40. Bon,
Ouais.
voilà, c'est juste pour préciser.
C'est ça. Est-ce que ça va se traduire assez en NBA? On a vu des mecs hein, qui avaient des très bons pourcentages en NCAA et après ça retombe un peu en NBA. Est-ce que ça va justifier son utilisation en spot-up shooter en NBA? Ça, c'est ma question. Après, au niveau de la défense, je suis d'accord avec toi. C'est déjà très fort, que ce soit hors ballon ou sur l'homme, c'est déjà impressionnant.
Bah, en fait, pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Isaiah Jackson par rapport au fait de prendre de la masse. Pour moi, en NBA, la prise de masse de muscle et le shoot à 3 points, enfin le shoot de manière générale, c'est vraiment les 2 points qui sont les plus simples, on va dire, à travailler. Parce qu'en gros, c'est de la répétition. C'est pas quelque chose qui te demande un gros QI basket, qui te demande quelque chose de inné, on va dire, ou un truc comme ça. Du shoot pour progresser au shoot, enfin, on en a vu souvent des joueurs qui n'avaient pas un bon shoot. Et nous, en tant que fans des Celtics, on peut en témoigner avec Marcus Smart. Voilà, Marcus Smart, on ne pensait jamais que ça deviendrait un jour un joueur qui shoot à plus de 35% à 3 points, surtout sur des tirs compliqués. Enfin, et je trouve que ouais, le shoot, c'est quelque chose. Voilà, si ton shoot n'est pas constant, tu vas à la salle, tu fais 2000 shoots par jour. Et voilà, normalement, ça, il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas. Je ne sais pas, Hugo, ce que tu en penses, toi, du fit avec. Agbaji Celtics, c'est même du joueur en lui-même.
Sur le joueur, c'est un joueur que j'aime vraiment bien. Gros gros défenseur. Après, il y a d'autres points forts. Hein. Déjà, sa mobilité, c'est un joueur qui est très rapide, très mobile latéralement. Après, bon, à Boston, je suis un peu plus sceptique parce que déjà, tu parlais de Semi Ojeleye. C'est marrant parce que, à chaque fois que je le vois jouer, je pense beaucoup à lui parce qu'en fait, dès qu'il a le ballon, il va shooter. Et ça me fait penser à Ojeleye des premières années. Cette année, il fait un peu moins parce qu'il a, après 3 ans dans la ligue, il a appris qu'il pouvait poser le ballon par terre et aller jusqu'au cercle. Donc il dribble un peu plus. Mais les années précédentes, c'était vraiment ça. C'était j'ai le ballon, je shoote. Et ça me fait un peu peur. D'autant que, ben, tu l'as dit, son handle est vraiment moyen. Même s'il a quand même progressé au fil du temps. Mais ouais, ça reste pas ouf. Donc je pense que dans un premier temps, c'est un joueur qui devra faire ses classes sûrement en G-League avant d'avoir un rôle en NBA. C'est pour ça que, enfin, je sais pas, tu pensais plutôt, j'imagine, le draft en fin de premier tour, j'imagine.
Ouais.
Ok, ouais, bon.
Il y a sûrement des meilleurs choix à faire, mais je me
Ouais,
dis,
c'est sûr.
si en fonction d'où est notre pic, je me dis entre 25 et 30, si nos cibles préférentielles, on va dire, sont parties, je commence à y réfléchir. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui va toujours servir un trendy, comme tu l'as dit, même dans le pire des cas, si le tir à trois points ne se transpose pas à la grande ligue, ça sera un défenseur plus qu'honnête. C'est sûr que ça peut toujours servir. Après, bon, pour un pic en fin de premier tour, je suis pas trop trop convaincu. Par contre, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on trade le pic et qu'on cherche vraiment à ajouter un jeune à effectif, pourquoi ne pas acheter un pic de draft comme l'avait fait par exemple Golden State avec Jordan Bell il y a quelques années, acheter un pic en début de deuxième tour et y penser sérieusement.
Ça marche. On va passer au deuxième joueur de François Damien.
Et bah du coup, on va rester sur la défense. On va parler de Aaron Henry, qui est l'ailier de Michigan State. Rappelez-vous, il avait déjà crevé l'écran en 2019 dans cette magnifique équipe de Michigan State. C'est lui qui avait défendu sur RJ Barrett lors de la victoire dans la March Madness sur la super team de Duke avec Zion Williamson, RJ Barrett et Cam Reddish. RJ Barrett avait fini ce match à 7 sur 17 au tir, des pourcentages qui n'étaient pas habituels à l'époque, mais qui... depuis, le sont devenus au grand dam de nous, fans d'Enix. Depuis, de l'eau a coulé. Il a un petit peu quitté ce rôle de spécialiste défensif. Hein. Cassius Stanley, Xavier Tillman sont partis dans la grande ligue et il s'est retrouvé propulsé leader offensif de cette équipe sous Tom Izzo. Alors, Michigan State, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça joue très vite. C'est une équipe qui défend très fort. Et bien, Aaron Henry, c'est le symbole de cette équipe. C'est un énorme défenseur sur les postes 2, 3, 4. Il est très tonique sur ses appuis, il a une très très bonne mobilité de l'arrêt latéral avec un centre de gravité assez bas qui l'aide là-dessus. Il peut se retrouver à switcher sur des arrières toniques et ne pas être ridicule. Il l'a fait contre Illinois où il a 2-3 bonnes défenses sur Ayo Dosunmu qui est un lottery pick de cette année et puis assez explosif et il l'avait très bien défendu. Donc voilà, c'est un spécialiste défensif, ça il le fait très bien. Titouan, tu nous as parlé de steal percentage et de block percentage plus tôt. Il est à 2,3% d'interception et 4,4% de contre. Donc ça, on est presque sur du élite. Hein. Il est très très fort. En attaque, par contre, voilà. Alors cette année, c'est un gros volume, comme j'ai dit. Il s'est retrouvé propulsé leader offensif d'une équipe. C'est pas son rôle à la base. Il est à plus de 15 points de moyenne. Donc ça, c'est bien. Et par contre, sur 16 tirs tentés. Hein. Donc c'est pas forcément le summum de l'efficacité, surtout pour un poste 3-4 qui joue surtout près du cercle. Une des raisons principales, c'est que voilà, Michigan State, c'est une des pires équipes à 3 points du pays. Ils sont 279e en D1, donc vraiment au bas fond du classement. Mauvaise réussite au cercle, il est à peine à 56% de réussite au cercle, ce qui est vraiment pas incroyable, et ça s'explique aussi par le fait que voilà, les équipes défendent sur lui. Purdue l'a très très bien fait, Maryland l'a très bien fait, c'est vraiment le point focal de l'attaque et forcément de la défense adverse. Alors ce genre de soucis, ça devrait se régler en NBA avec un spacing amélioré, mais de toute manière je le vois mal avoir la balle en main au niveau au-dessus. Forcément, comme il était beaucoup défendu, il a montré des belles capacités à la passe. Il tourne à 4 passes décisives de moyenne cette année, 25% de pourcentage de passes décisives, ce qui pour le coup c'est très bon. Mais c'est un passeur réactif, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas lui qui va créer les décalages, il va voir les décalages et il sait les exploiter, mais c'est pas forcément un manipulateur de défense. Par contre voilà, il a montré des belles capacités à la passe, ce qui peut éventuellement lui donner un rôle offensif intéressant. En espèce de point forward. Alors il n'aura pas assez la balle dans les mains en NBA pour avoir un gros rôle de création, mais il a quand même un potentiel au-dessus de son très très bon profil défensif. Au profil physique, j'ai pas dit, hein, mais c'est un espèce de Josh Okogie avec 5 cm de plus, hein, donc 2m3 et puis aux alentours de 85 kg de mémoire. Voilà.
Ça marche. Mais alors du coup, tu dis qu'il a c'est quelqu'un qui a pas de. Enfin, moi, je l'avais déjà vu l'année dernière. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas un gros shoot extérieur. Il est même en régression, d'ailleurs, d'année en année. Je crois que sur les trois dernières saisons, ses pourcentages n'ont fait que diminuer à 3 points. Tu dis qu'en NBA, ce ne sera pas un joueur qui aura souvent le ballon entre les mains.
Oui.
Mais du coup, si tu n'as pas le ballon entre les mains et que tu n'as pas de shoot extérieur.
Ah, absolument, absolument.
Ça va être très compliqué offensivement quand même.
Ah, offensivement, ça va être très très compliqué. Ça, c'est vrai que je vous le cache pas. Hein. Offensivement, ça va être compliqué pour Aaron Henry. Mais il a montré des belles capacités en playmaking qui me font penser que en NBA, il pourrait tout de même avoir. Il pourrait ne pas être une tare offensive. Mais pour moi, il a un profil défensif qui est trop intéressant pour passer dessus. Au poste 3-4, il faut un espèce de wing stopper comme ça. C'est un profil qui est recherché dans la NBA actuelle. Et il a montré voilà, un toucher quand même sur des flotteurs, même main droite, hein, main gauche, main droite. Un petit turnaround jumper à mi-distance qui me font penser que voilà, en NBA, ça pourrait ne pas non plus être une tare offensive.
Ça marche. Hugo, un avis sur Henry?
Ouais, bah déjà, c'est un joueur que j'ai beaucoup vu parce que Michigan State est une fac que j'aime beaucoup. Donc, il entre dans la tradition justement des joueurs de Michigan State, donc une usine à role player. Et comme ses comparses, par exemple Xavier Tillman, c'est un role player qui sera très intelligent, très fort défenseur. Je pense que dans la classe de draft, c'est peut-être le défenseur qui est le plus à l'aise sur les close-out, quand il faut sortir loin sur les tireurs. Il est vraiment très, très fort là-dessus. Et c'est marrant parce que François Damien parlait de son match face à Duke en 2019. Moi, j'ai aussi le souvenir d'un match face à Duke, mais l'année d'après, en 2020, où il avait été exceptionnel défensivement. Je pense que c'est un des matchs défensifs qui m'a le plus impressionné depuis que je suis à NCAA. Vraiment, j'ai... Du début à la fin, exceptionnel, la même intensité de la première à la dernière minute. Et ce jour-là, bah, je suis tombé amoureux d'Aaron Henry. Donc, par contre, pour de là drafter en fin de premier tour, je suis très dubitatif parce que justement, la partie offensive est très compliquée. Mais oui, c'est un profil qui est intéressant pour une franchise et pourquoi pas pour Boston, par exemple. On parlait de Javante Green qui n'est pas un excellent défenseur. Qui n'a pas de shoot extérieur. Autant prendre Aaron Henry, qui n'a pas de shoot extérieur, mais qui est un excellent défenseur.
Et d'ailleurs, du coup, on parlait justement de Al-Baji, justement, où on disait que c'était un bon défenseur, mais pas encore. Mais qu'en fin de premier tour, ça va être compliqué. Si vous devez faire un choix entre Henry et Al-Baji, les deux sont des bons défenseurs, Henry peut-être un peu meilleur. Par contre, Al-Baji a quand même un potentiel shoot extérieur.
Sur le potentiel, personnellement, je prends Agbaji. Après, Aaron Henry, c'est Michigan State, donc j'hésite. Mais... non, mais je prends quand même Agbaji.
Ouais, moi, j'ai envie de prendre mon poulain. je vais prendre Henry, tout simplement, parce que j'ai confiance quand même qu'il peut ne pas être un non-facteur offensif. Et ce qu'il m'a montré défensivement, c'est vraiment élite. Hein. Vraiment, vraiment élite.
Après, ce qui plaît dans ta faveur, c'est aussi le fait qu'on parlait de Xavier Tillman. Si je dis pas de bêtises, Draymond Green, c'est Michigan State aussi.
Ouais, c'est ça.
Absolument. Absolument.
Donc, Draymond Green, quand il sort de la fac, c'est un gros défenseur avec un QI basket, mais pas de shoot à 3 points. Quoi.
Ouais, mais j'ai du mal à voir Aaron Henry avec la même vision du jeu.
Oui.
Bon, en même temps, les Draymond Green, il n'y en a qu'un seul. Et,
aussi.
Quoi, Grant Williams n'est pas le successeur de Draymond Green.
Oh, on nous a menti. C'est Hugo.
Donc, on va aller avec un joueur de Pepperdine, Kessler Edwards. Et d'ailleurs, j'embrasse mes collègues d'envergure qui ont... Enfin, mes collègues, mes amis d'envergure qui ont fait un podcast très complet, donc de 40 minutes sur Kessler Edwards. Je vous invite à aller l'écouter. Je retourne sur ma théorie. Donc, où le pick sera tradé et on monte en début de deuxième tour pour aller le chercher. Parce que je pense que lui, pour le coup, c'est encore une fois un gros potentiel. Potentiel 3&D, justement. Pour l'instant, il y a plus le 3 que le D. Mais physiquement, je pense qu'il est prêt à s'améliorer dans ce compartiment du jeu et à être au moins un joueur décent. On va pas dire un excellent défenseur parce que je pense qu'il n'a pas la lucidité, il n'est pas assez comment réactif dans les rotations, etc., pour être un excellent défenseur. Mais je pense qu'il peut au moins être un bon défenseur sur l'homme. Après, bon, pour progresser encore, on verra. Mais sinon, enfin, encore une fois, c'est un potentiel, un projet. Mais bon, la question à laquelle il reste à répondre, c'est cette année, il était très bon à Pepperdine. On se souvient notamment d'un match à 37 points. J'ai plus l'adversaire en tête. J'ai plus l'adversaire en tête, mais un gros match à 37 points, 11 rebonds. Mais oui, c'est toujours la question de l'adversité, parce qu'il joue dans la WCC, qui est une bonne conférence, mais pas non plus la meilleure conférence du pays. Donc, est-ce qu'il pourra exceller face à des défenses NBA? Là, j'ai de plus gros doutes. En tout cas, dans un premier temps, j'ai de très, très gros doutes.
Ouais, je comprends. Bah, j'avais aussi écouté le podcast d'Envergure. C'est vrai qu'on. C'est un joueur qui est assez. Qui est à la fois intéressant et frustrant, parce que tu sens qu'il a du potentiel un peu partout, qui peut être un peu. Voilà, qui peut avoir un peu ce rôle de. Enfin, ce profil de role player un peu couteau suisse. Mais tu as aussi l'impression qu'il faut travailler partout. Enfin, il n'y a pas une qualité qui me semble élite chez lui, mais il n'a pas non plus de gros défauts. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Je ne sais pas ce que tu en penses, François Damien.
Ouais, alors c'était pacifique, hein, le match à 37. Et effectivement, moi, je pense qu'on aime l'idée de Kessler Edwards parce qu'il a les outils, mais la réalité, pour l'instant, on est loin de l'idée. Hein. Mais il a les outils athlétiques, il a un tir qui, bon, c'est pas le plus beau, hein, c'est pas la plus belle mécanique, mais maintenant, voilà, ça, tant que ça rentre, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Mais voilà, du potentiel, il en a plein, mais comme tu l'as dit, Tiffon, il y a énormément de progrès à faire, dans les rotations défensives, dans la compréhension du jeu, il y a énormément de potentiel, surtout, énormément de choses à faire. Pour moi, c'est un joueur qui sera très bien en G-League pendant 2-3 ans à faire ses gammes.
Ça marche. Allez, place au dernier prospect, du coup. Donc, c'est pour moi. J'ai choisi l'arrière d'Alabama, John Petty Jr. Alors, c'est un arrière d'1m96 avec une envergure de 2m4. C'est un senior. Il a 22 ans. Alors, bon, moi, je regarde surtout pour les Celtics, je regarde surtout des prospects qui sont des troisième ou quatrième année, parce que souvent ils sont plus NBA ready, que ce soit physiquement, que ce soit dans le jeu. Donc voilà, pour une équipe comme Boston qui a déjà pas mal de jeunes à développer, je trouve que c'est plus intéressant. Justement, quand j'ai regardé John Petty, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est son shoot déjà. Il a une bonne mécanique. Sur ces 4 saisons, les stats sont assez hallucinantes. Petty à 3 points sur ces 4 saisons, c'est 38,5% sur 6,2 tentatives par match. Et donc sur les 4 saisons, c'est 760 tirs extérieurs. Donc il est à plus de 38% sur 760 tirs, donc c'est assez intéressant. Et par contre, comme Agbaji, offensivement, c'est pas vraiment un playmaker. Alors il est moins unidimensionnel qu'Agbaji. C'est un joueur qui force rien, il monopolise pas le ballon, il se glisse parfaitement dans l'organisation de l'attaque. On voit qu'Alabama joue quand même avec pas mal de mouvements offensivement, et ça lui arrive régulièrement de toucher la balle en attaque. Voilà, c'est pas un joueur qui va juste rester dans son corner et attendre son shoot ouvert. Il s'implique dans l'attaque et dans l'organisation de l'attaque. Défensivement, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Il est très appliqué, il est très actif au niveau des bras, au niveau des mains. Il a une bonne mobilité pour défendre sur les drives, mais aussi pour défendre la ligne à 3 points. Donc ouais, moi, j'aime beaucoup. À mon avis, il va être un peu petit pour défendre les 4. Mais pour moi, il peut défendre poste 2, poste 3, voire les postes 1. Alors, peut-être pas les postes 1 élite, mais voilà, des postes 1, on va dire... average, pour moi, il peut défendre correctement dessus. Au rayon des défauts, j'ai surtout noté 2 points. Alors, essentiellement en attaque, tout d'abord son tir en sortie de dribble. Il montre quelques progrès, mais c'est très, enfin, trop même limité pour être efficace face à de bons défenseurs NBA. Et ensuite, son ratio passe décisive perte de balle, qui est à peine de 1. Il tourne à plus de 2 turnovers par match. Après, voilà, Comme je disais, Alabama propose un jeu avec pas mal de mouvements de ballon et lui, de toute façon, ce sera, c'est pas le joueur qui sera l'initiateur ou le créateur premier de son équipe, c'est pas ce qu'on lui demandera. Donc voilà, c'est un défaut à relativiser par rapport au rôle qu'il aura en NBA, mais c'était à noter tout de même. Donc voilà, après, au niveau du rôle chez les Celtics, bah, comme on le disait tout à l'heure avec Agbaji ou même avec Aaron Henry, à la place d'un Javonte Green, voilà, moi, John Pettit, c'est un joueur qui peut défendre, qui a montré sur 4 saisons qu'il avait un shoot à 3 points. Donc voilà, moi, pour moi, défensivement, ça fera le boulot pour ne pas être négatif. Offensivement, ça rentrera ses 3 points. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un bon pic en fin de premier tour.
Ouais, moi, j'adore ce joueur. Je le trouve très, très joli à regarder. Et il y a peut-être une tendance un peu à surévaluer les joueurs qui sont jolis à regarder. Et là, en tout cas, c'est très, très joli. Si vous pouvez les regarder, que ce soit même au-delà des matchs, hein, que ce soit des highlights, c'est très, très joli. Il est à, effectivement, 38% à 3 points, avec des tirs qui sont quand même compliqués. Il a un vrai bras. Hein. Il a un vrai bras dans un rôle de spot-up en NBA. Je pense que ça peut même un petit peu monter en pourcentage. Et voilà, ça me fait dire que, bon, de toute manière, il sera adaptable à la NBA. Comme tu as dit, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que même s'il est très fort, j'ai regardé un match contre Kentucky où Herb Jones se blesse et du coup il se retrouve un peu seul initiateur de l'attaque. Et même là, hein, il laisse le ballon vivre, il ne le monopolise pas, ça j'aime beaucoup. Ce qui me fait vraiment penser qu'il est totalement adaptable à la NBA où il aura un rôle forcément réduit. Défensivement, peut-être un peu plus de doutes, je sais pas, peut-être un peu frêle pour qu'il soit un bon défenseur en NBA. Mais en tout cas, voilà, ouais, fin de premier tour, ça me paraît peut-être un peu juste, parce que voilà, il a déjà 22 ans, on sait déjà ce qu'il sera, pour moi, il n'a pas une marge de progression incroyable. Maintenant, si Boston veut le prendre au deuxième tour, je pense qu'il sera toujours au dispo, au milieu de deuxième tour. Mais voilà, ça peut être un joueur qui peut être intéressant pour chaque équipe NBA, dont Boston.
Ouais, bah alors justement, pour revenir à, tu disais en spot-up shooter, en catch and shoot cette saison, il est à 48, je viens de trouver la stat, il est à 48% à 3 points en catch and shoot. Donc, c'est ultra solide. Après, c'est vrai qu'il faudra qu'il s'épaississe, ça c'est sûr. Et c'est vrai aussi, comme beaucoup de joueurs de 3e ou de 4e année, c'est un joueur qui a un plafond qui est forcément très limité. En gros, ce qu'on voit là de lui, c'est ce qu'il peut faire en NBA et c'est probablement ce qu'il fera en NBA. Il fera pas plus. Il a pas une très grosse marge de progression, mais au moins tu sais ce que t'as. Tu sais ce que tu draftes. T'auras pas plus, mais tu sais qu'il y a peu de probabilité que t'aies moins. Donc voilà. Moi, en gros, sur un choix comme ça, je mise, on va dire, la sécurité, un peu comme on a pu le faire avec Grant Williams l'année dernière.
Ouais, c'est, bah, comme vous l'avez dit, c'est un joueur qui est élégant, qui est un bon joueur dans une équipe d'Alabama, qui est une équipe, qui est une très belle équipe à regarder. Et, enfin, oui, comme tu l'as dit, pour moi, ça va vraiment être le spécialiste du shoot en sortie de banc en NBA. Le mec qui va rentrer, qu'on va faire courir, qu'on va lui faire prendre des écrans, shooter à l'opposé, ça va être ça son rôle, je pense. Mais, enfin, oui, c'est un bon joueur. Je suis pas du tout convaincu en revanche sur sa défense. J'ai de gros gros doutes pour le coup. Mais bon, j'espère qu'il. C'est un joueur en qui je croyais pas trop lors de ses deux premières saisons, qui a su me bluffer en. Enfin, c'est un joueur qui est arrivé en tant que freshman, qui tournait déjà 14 points de moyenne, donc un bon freshman. Je pensais qu'il y aura un step-up en tant que sophomore. C'est pas arrivé, il a gardé plus ou moins les mêmes stats. Par contre, en saison junior, là, il y a eu un vrai step-up, notamment en termes statistiques, mais aussi dans le jeu, dans l'aspect visuel. Et ça s'est confirmé sur sa saison senior. Donc, c'est un joueur en qui je croyais assez... j'y croyais, mais sans non plus m'attendre à... J'attendais pas la lune de John Pettit. Il a su me bluffer, donc je pense qu'il saura encore le faire défensivement. En tout cas, j'espère. Et oui, c'est un joueur qui est intéressant pour un deuxième tour en NBA. Parce que justement, c'est un spécialiste d'une chose. Et en NBA, quand on draft au deuxième tour, on demande généralement au joueur de maîtriser une chose en particulier. Lui, ça sera le shoot. Et allons-y.
Et surtout qu'à la différence de certains spécialistes du shoot, je trouve que John Petit, alors tu parlais justement de sa défense. On sait que ça ne deviendra jamais un défenseur élite. Enfin, sa défense n'est pas élite en NCAA et il ne sera jamais défenseur élite en NBA. Mais par contre, pour moi, à la différence de beaucoup de spécialistes du shoot à trois points, lui, il ne sera pas négatif. Ce n'est pas lui qui va changer un momentum d'un match sur une défense, mais je pense qu'il aura une défense assez bonne pour ne pas être la cible de l'attaque adverse. Surtout que, à mon avis, son rôle, enfin, le rôle qui l'attend, c'est un rôle en sortie de banc, donc ça veut dire très souvent face aux secondes unités adverses. Donc je pense qu'il aura le niveau défensif assez suffisant pour ne pas se faire dérouiller par un 9e ou 10e homme d'une équipe adverse. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, dessus.
Non, je suis d'accord avec ton dernier point.
Bah, allez voir Obama, profiter.
Oui.
En plus, ils ont du monde. Hein. Herb Jones, Shaq Elford, même Joshua
Primoli, qu'on adore chez Midnight on Campus. Je fais un petit dédicace à Julien qui y croit très, 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 très fort.
Non, c'est vrai qu'il y a du monde. C'est un beau programme à voir jouer.
Je suis allé voir Pepperdine aussi, c'est sympa.
Ouais, il y a beaucoup de programmes à aller voir qui sont sympas.
Kentucky,
il y en a beaucoup à ne pas aller voir aussi. Duke et Kentucky en ce moment, depuis quelques saisons déjà.
Et BJ Boston, vous voulez pas à Boston?
pour anecdote, j'ai hésité avec Isaiah Jackson, mais.
Ah ouais, ah non, t'as bien fait de prendre Isaiah.
Ouais, bon, on a déjà Linkford, en qui je crois beaucoup, mais. Et les Smiths, on va pas rajouter encore un extérieur.
Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez du contenu régulier sur la NCAA, n'hésitez pas à suivre Hugo et à aller faire un tour sur Midnight on Campus. Et à les suivre sur Twitter évidemment. Et n'hésitez pas à suivre François Damien également et le boulot que lui et son équipe font chez QI Basket pour couvrir la NCAA et surtout la NBA. Les gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Je vous
Merci
dis à la prochaine. Et puis pour ma part, je vous dis à dans un mois pour l'épisode numéro 4. Allez, ciao.
Ciao.
Ciao. Thomas on the drive. Pull up jumper. It's good.